Et les matins se poursuivent avec le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Abdelaziz Bouteflika, candidat à un cinquième mandat présidentiel, c'est désormais officiel. Sa candidature a été déposée au Conseil constitutionnel hier en fin d'après-midi. Candidature assortie de concessions, va nous dire Nathanaël Charbonnier, mais des concessions qui ne convainquent personne. Les habitants de plusieurs grandes villes étaient de nouveau dans les rues cette nuit. Analyse à suivre du politologue algérien Rachid Tlemcani.
Et puis l'affront des Algériens est soutenu par la diaspora en France, à Marseille, Paris, Toulouse. Hier, plusieurs milliers de personnes ont également manifesté. Ces témoignages à suivre.
Au Venezuela, Juan Guaido parviendra-t-il à revenir à Caracas? L'opposant au président Maduro revient d'une tournée en Amérique du Sud après avoir bravé une interdiction de sortie du territoire. Explication à suivre de Benjamin Delisle.
Emmanuel Macron se lance dans la campagne pour les européennes. Il s'est exprimé hier soir sur une chaîne de télévision publique italienne et formulera demain matin dans la presse régionale ses propositions pour une Europe qui protège.
Le long chemin des élections européennes pour Emmanuel Macron. C'est aussi le thème du billet politique de Frédéric Seiss à 8h15. Et puis à la fin de ce journal, on s'arrêtera sur cette campagne d'information sur l'endométriose, une pathologie gynécologique qui peut provoquer de fortes douleurs chez les femmes. Les rues d'Alger, cette nuit, plusieurs centaines de jeunes sont sortis pour protester contre la candidature du président Bouteflika à un cinquième mandat. C'est désormais officiel, le dossier du chef de l'État, pourtant hospitalisé en Suisse, a été déposé hier en fin d'après-midi au Conseil constitutionnel. Une candidature assortie de quelques concessions. Dans une lettre lue par son directeur de campagne, Abdelaziz Bouteflika s'est engagé à une série de réformes s'il est élu en avril prochain. Il promet d'organiser une présidentielle anticipée. À laquelle il ne se représentera pas. Les précisions de Nathanaël Charbonnier.
On se demandait quel lapin le pouvoir algérien sortirait de son chapeau pour justifier la candidature du président Bouteflika. On a la réponse. Il s'agira d'un petit mandat. Bouteflika le promet, il organisera une élection anticipée. La ficelle est grosse, mais elle permet de gagner du temps, ce temps que les autorités algériennes n'ont pas trouvé alors qu'elles disposaient pour cela de plusieurs années. L'accident vasculaire cérébral de Bouteflika date de 2013, la dernière élection présidentielle de 2014. Déduction, il n'y avait pas de plan B, le régime pensait que le peuple algérien accepterait sans rien dire ce pouvoir à vie de son président de 82 ans. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, l'opposant le plus crédible, l'ancien Premier ministre Ali Benflis, a jeté hier l'éponge en refusant le combat pour ne pas servir de caution à la mascarade. Sans légitimité, sans adversaire, sans issue de secours, le pouvoir algérien va devoir sortir des trousses de maquillage pour espérer donner à cette élection un air normal. Mais si l'on en croit la rue et les Algériens, l'affaire est loin d'être gagné.
Précision de Nathanaël Charbonnier, gagner du temps donc pour les autorités, mais n'est-il pas déjà trop tard? Rachid Tlemcani est politologue à l'université d'Alger. Selon lui, le mouvement populaire risque au contraire de se durcir.
Le pouvoir réagit en fonction de la pression populaire. S'il pense que le mouvement va s'épuiser de lui-même, va s'essouffler. Donc je pense que c'est une petite ruse. On pense toujours que le peuple n'est pas à la hauteur de comprendre les enjeux de ce pays. Donc ces jeunes qui ont été le facteur essentiel de ce mouvement, rappelons-le, c'est une génération qui a une histoire propre, une histoire qui est marquée par les nouvelles technologies et réseaux sociaux. D'ailleurs, ce mouvement n'a pas été dirigé par aucun parti. Je ne pense pas que ce mouvement va s'essouffler, parce que ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le vide. Donc, l'enjeu est vraiment historique actuellement. Et le pouvoir ne semble pas avoir compris qu'il doit laisser les clés de la maison à cette jeune génération. Il va directement au mur. Je ne pense pas que les jeunes rentrent au bercail. Je pense qu'ils vont continuer ce mouvement. Et chaque jour qui passe, le mouvement se radicalise.
Des propos recueillis par Nabila Hamel. Un mouvement qui ne risque pas de s'arrêter, d'autant plus qu'il est soutenu par la diaspora. Des milliers d'Algériens ont également défilé hier dans plusieurs capitales, et notamment en France, à Paris, mais aussi à Toulouse, à Marseille, où les manifestants s'étaient retrouvés donc à Paris, place de la République. Fema Bouda portait une énorme pancarte avec ce slogan « Non au mandat de la honte, 20 ans, ça suffit ». Elle s'adresse à Angélique Ferrat.
Là, il est impossible qu'ils avancent, parce que là, sinon, c'est la révolution. Vous avez des contacts en Algérie, vous?
Oui, madame.
Les gens sont déterminés.
On ira jusqu'au bout pour l'avenir des enfants, des petits-enfants, du peuple algérien. Il est temps de nous libérer. C'est du ras-le-bol, de la colère, tout ce que vous voulez, madame. Tout. Moi, quand je vais en vacances en Algérie, madame, je vous assure que le rapport que j'ai avec les gens, c'est un sentiment de peur. Les gens sont vraiment soumis. Soumis. Alors que moi, je suis arrivée en 92, madame. En 92, l'Algérie était autre. C'est depuis l'arrivée de Bouteflika en 99 que tout a chuté, madame. Le clientélisme, la bande des voleurs, les oligarques, des gens qui sont arrivés de nulle part, qui se sont accaparés des biens de l'Algérie, des richesses de l'Algérie et qui sont devenus milliardaires, alors que le peuple crève de faim, madame. Nous avons été colonisés pendant 130 ans et nous avons encore été colonisés pendant 20 ans par le président Bouteflika et sa bande. Nous demandons le départ du système.
Aux États-Unis, au moins 23 personnes ont été tuées hier par une tornade en Alabama, dans le sud-est du pays. Tornade qui a provoqué également des dégâts catastrophiques, selon un shérif local. Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues et d'autres ont été gravement blessées.
8h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg. Dans les matins, le chef de l'opposition vénézuélienne a bien l'intention de rentrer aujourd'hui à Caracas, en dépit des risques de se faire arrêter par le régime du président Maduro.
Bravant une interdiction de sortie du territoire, Juan Guaido vient d'effectuer une tournée en Amérique du Sud, d'abord en Colombie pour coordonner l'aide humanitaire. Puis il s'est rendu au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Équateur. Les précisions sur son retour de Benjamin Delisle.
On ne sait toujours pas comment Juan Guaido va rentrer au Venezuela, mais une chose est sûre, il est attendu de pied ferme. Par ses partisans d'abord, qu'il a invité à sortir dans la rue aujourd'hui à partir de 11h du matin partout au Venezuela. Lui-même est attendu place Alfredo Sadel, à l'est de Caracas. Mais va-t-il seulement arriver jusque-là, car il est aussi attendu par les autorités qui ont promis de l'arrêter. Juan Guaido a plusieurs fois répété qu'en tant que président, il se devait d'entrer par la grande porte, l'aéroport international Simón Bolívar. Mais la menace d'arrestation pourrait bien le pousser à prendre des chemins de travers, comme lors de sa sortie le 22 février. Avec ce retour, l'opposant tente une nouvelle fois un pari risqué. Déjà car il risque de finir derrière les barreaux, mais aussi en convoquant une manifestation un jour pour le lendemain, en plein carnaval, alors que de nombreux Vénézuéliens sont en vacances. D'autant que les menaces de ses alliés internationaux contre Nicolas Maduro en cas d'arrestation n'inquiètent pas vraiment le président vénézuélien. À part une condamnation formelle, il voit mal ce que ces pays pourraient lui faire, surtout maintenant que la majorité a écarté l'usage de la force pour le sortir du pouvoir.
La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
Et on va demander une réaction à notre invitée Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis. La France insoumise a pris en partie fait cause pour Nicolas Maduro. C'est votre point de vue également, Clémentine Autain?
Non, on a contesté l'ingérence américaine et française qui, pour le coup, a pris parti pour l'opposant Juan Guaido, qui pourtant, à mon avis, n'est pas forcément la solution aux crises que nous traversons au Venezuela. Donc, ce que nous avons dit, c'est que Maduro n'est pas aujourd'hui dans une situation de répondre aux aspirations populaires. Je crois d'ailleurs que sur le plan économique, le bilan n'est pas fameux. Mais qu'en même temps, il est impensable qu'on sorte de là avec une ingérence américaine qui s'assoit littéralement sur les aspirations populaires et qui, au fond, instrumentalise le Venezuela. Et si vous n'entendez pas cette position... Je sais pas comment on peut être plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on regarde l'attitude de la France.
Je suis pas sûr que la manière dont vous le dites soit exactement la même que celle des autres membres de la France insoumise. Mais vous avez le droit d'avoir votre voix, Clémentine Autain.
Vous voyez la façon dont la France, traite, par exemple, Bouteflika. Même si ça a été à mi-mot hein, de la part d'Emmanuel Macron, le deux poids deux mesures sur le soutien au peuple d'un côté et de l'autre côté le soutien au président de la République, vous dites que franchement tout cela est à géométrie variable et pour ma part je souhaite à chaque fois qu'on sorte de là par une issue qui soit une issue émancipatrice et respectueuse des droits et libertés.
On se retrouve dans quelques instants, Clémentine Autain. Il est 8h10 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg.
En Estonie, le parti de la réforme revient sur le devant de la scène politique, principalement principale formation libérale. Elle remporte les élections législatives. Un parti qui arrive en tête avec plus de 30% des suffrages. Une coalition gouvernementale pourrait voir le jour avec le parti de centre-gauche de l'actuel Premier ministre qui rassemble 23% des voix. L'extrême droite réalise une percée avec près de 18% des bulletins de vote exprimés. À moins de 3 mois des élections européennes, Emmanuel Macron a mis en garde contre la tentation du repli nationaliste. Le chef de l'État s'est exprimé hier soir sur la chaîne de télévision publique italienne Rai Uno. Il a également livré un plaidoyer pour une Europe forte, unie et souveraine. Il s'agissait aussi de soigner la relation franco-italienne durement éprouvée ces derniers mois. C'est un compte-rendu de notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti.
Une interview très calibrée, enregistrée à l'Élysée. 30 minutes, pas une de plus de questions-réponses doublées en italien. Et une première mission pour le président français, relancer le lien franco-italien après la crise diplomatique récente et le rappel de l'ambassadeur de France en Italie.
Les péripéties les plus récentes.
Il faut dépasser les malentendus, plaide le président français, car il n'y a pas d'aventure européenne s'il n'y a pas d'amitié entre nos deux pays. Conciliant sur la crise migratoire, Emmanuel Macron reconnaît que l'Europe a manqué de solidarité envers l'Italie par le passé et assure que l'esprit actuel de fermeture ne correspond pas à l'ADN du pays. Il évoque ainsi à plusieurs reprises la ligne politique de Matteo Salvini, le leader de la Ligue, son ennemi sur le plan européen, mais sans jamais le nommer. Le président français préfère exposer ses thèmes de campagne.
Véritablement, je ne crois pas que la réponse...
L'Europe des nationalistes n'est pas la réponse. Aucun pays ne pourra résoudre ses problèmes en s'opposant aux autres, martèle Emmanuel Macron, qui promet de se battre contre ceux qui veulent la fin de l'Europe. Une première offensive médiatique à 3 mois des élections. Le président français doit publier dans la foulée demain une tribune dans l'ensemble de la presse européenne.
Quant à la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État reconnaît avoir fait par le passé des erreurs qui expliquent en partie la durée du mouvement social. La fermeture de l'usine Ford est un séisme territorial, estime à l'instant la maire PS de Blanquefort en Gironde. L'État devrait valider d'ici ce soir le plan social présenté par le constructeur américain. 850 familles sont concernées, même si les discussions avec Ford ne sont pas pour autant terminées. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il allait demander 20 millions d'euros à la firme américaine, une somme qui doit servir à réindustrialiser le site de Blanquefort. Mais pour Marie-Claire Caïto de la CGT Industrie, il est un peu tard pour faire pression.
Monsieur Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, comme vous l'avez signalé, puisqu'on n'a plus de ministre de l'industrie depuis ce gouvernement, gesticule beaucoup, fait beaucoup de communication, mais pour l'instant, son bilan est désastreux. Hein, c'est un zéro pointé. Il demande 2 choses à Ford Blanquefort. La première chose, c'est de dépolluer le site. Enfin, ça semble quand même la moindre des choses, j'allais dire. Et la deuxième chose, il lui demanderait 20 millions d'euros pour réindustrialiser le territoire, sachant qu'il n'a pas encore de réponse de la part de Ford, qui doit quand même de toute façon 4 millions d'euros. Donc j'allais dire, si on fait le rapport par rapport aux 40 à 50 millions d'aides publiques qui ont été données à Ford Blanquefort sans contrepartie, alors qu'ils n'ont pas du tout rempli leur objectif, on va dire c'est pas beaucoup. À l'heure où aujourd'hui on questionne beaucoup la dépense publique, sur les ronds-points on dit regardons la dépense publique, réduisons la dépense publique. Chaque année on donne 20 milliards d'euros aux entreprises en CICE. Cette année ça sera 40 milliards parce que ça va être doublé. Donc là il y a quand même des choses à faire.
Est-ce que pour vous, l'État a tout essayé pour sauver l'usine de Blanquefort ?
Non, bien sûr que non. Nous pensons que l'État manque de vision industrielle, manque de stratégie industrielle.
Des propos recueillis par Margot Steve. Une campagne de 6 courts-métrages de l'association Info Endométrios tournera dès ce lundi sur les réseaux sociaux et dans les cinémas. Les spots ont été tournés par des actrices à partir de témoignages réels. Ils évoquent la difficulté de vivre avec cette maladie gynécologique. Depuis 3-4 ans, la pathologie a malgré tout réussi à se faire connaître. Elle est aujourd'hui connue, reconnue, mais la prise en charge doit s'améliorer, Véronique Julia.
Il y a encore 3 ans, avoir mal pendant les règles, c'était finalement le sort des femmes. Une première campagne d'information a levé le tabou en 2016. Les règles, c'est naturel, pas la douleur, disait le message. Cette nouvelle campagne montre cette fois comment on vit avec la maladie, dans son quotidien, dans son couple, dans son corps.
J'ai 35 ans et franchement, il y a des fois j'aimerais bien être ménopausée, parce qu'il paraît que c'est le seul moment où la maladie lâche du lest.
La douleur est toujours là, le quotidien difficile, comme le dit Anna Mouglalis dans un des spots. Ça reste impossible de dire à son employeur qu'on ne peut pas travailler pendant ses règles. Depuis 3 ans, le diagnostic s'est quand même amélioré, mais on peut largement mieux faire, constate Nathalie Clary, elle préside l'association EndoMind.
Les femmes vont plus facilement chez le médecin aussi parler de leur douleur. Donc en ce sens-là, le diagnostic est plus facile. Maintenant, les médecins, ils tiltent pas encore forcément sur l'endométriose. Donc il y a ce travail-là à faire au niveau de la formation des médecins.
La La médecine de ville n'est pas encore totalement efficiente. Dans les grands hôpitaux, en revanche, des centres spécialisés ont vu le jour. Il en faudrait davantage car ils sont pris d'assaut.
À Paris, à l'hôpital Saint-Joseph, ils ont quasiment un an de délai pour une prise de rendez-vous.
Quant au traitement, pas encore de recette miracle. On gère la douleur, on opère parfois. La maladie toucherait 10 à 20% des femmes en âge de procréer. Mais leur nombre exact et la gravité de leur mal restent assez flous. Une première cohorte de femmes atteintes est suivie depuis peu aux hôpitaux de Paris pour faire le point sur leur qualité de vie.
La météo, ce sont des vents violents du nord de la Seine au Grand Est, en passant par l'Eure-et-Loire et le Loiret. 44 départements sont placés en vigilance orange jusqu'à ce soir 18h. C'est la tempête Freya et les rafales pourront atteindre jusqu'à 120 km/h.